Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous avez bien raison d'écouter Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission aujourd'hui au cours de laquelle nous allons vous proposer une table ronde avec trois écrivains. Table ronde enregistré en public dans le cadre du Salon du Livre de Blanzy. Blanzy, c'est en Saône-et-Loire. C'est un événement organisé par les bénévoles de l'association Mine de Lire que préside Yves Jacob. Je voudrais d'ailleurs saluer Yves Jacob ainsi que tous les bénévoles de cette association qui me font confiance et qui me réservent tous les deux ans un accueil chaleureux. Alors, table ronde avec les auteurs invités, notamment Sylvie Vosgien pour un roman paru en cette année 2023 aux éditions Arléa et qui a pour titre Les dernières volontés de F.R. Mac Ferguson. Vous entendrez également Farah Dweeby pour un conte illustré qui a pour titre Le bâtisseur ou Le bâtisseur qui ne savait pas dire non. Cette table ronde n'aurait pas pu techniquement avoir lieu sans les compétences et l'efficacité de Christophe Royer que je salue et que je remercie. Et je vous propose tout de suite d'entendre le premier auteur de cette table ronde qui était également l'invité d'honneur du Salon du Livre de Blanzy. C'est le major de police Raphaël Nedilko qui, effectivement, est officier de police judiciaire au commissariat de Chalon-sur-Saône. Il a 50 ans, il est père de trois enfants, il a passé plus de 7 ans au 36 quai des Orfèvres à Paris et puis ensuite il a passé 8 ans à la PJ de Dijon. Et il signe un premier ouvrage paru cette année aux éditions Studio Fact et qui a pour titre L'Obstiné. J'ai donc demandé en ouverture à l'échange au cours de cette table ronde à Raphaël Nedilko de revenir sur son grade major de police.
Non, après que l'institution ait un petit peu gelé mon avancement de carrière, j'ai été nommé major de police.
Donc vous êtes major, donc c'est le plus haut grade dans ce qu'on appelle quoi, la fonction d'encadrement,
c'est ça? C'est ça, encadrement et application, et je suis chef de la brigade financière et des étrangers du commissariat de Chalon-sur-Saône.
Alors Raphaël Nedilko, on y apprend que vous avez quand même fait l'école de police de Sens, 7 ans passés au quai des Orfèvres à Paris, quai des Orfèvres d'ailleurs qui a changé d'emplacement. Il est dans le nord de Paris, on l'appelle le Bastion.
Le 36 rue du Bastion sur le 17e.
C'est ça. Et vous avez été un temps à la PJ de Dijon et actuellement vous êtes en poste à Chalon-sur-Saône.
Depuis 2016.
Voilà. Et effectivement, dans ce témoignage L'Obstiné, vous revenez sur deux. Alors, je n'aime pas beaucoup les mots anglais, je préfère les mots français, mais vous avez résolu deux, ce qu'on appelle des cold cases, c'est-à-dire des affaires qui n'ont jamais été élucidées. Alors, première affaire, et il y en a une qui s'est dramatiquement passée à Blanzy, c'est l'affaire Christelle Blétry à Blanzy, où une jeune femme, Christelle, 20 ans, qui est étudiante en bac pro, qui a été tuée de 123 coups de couteau. Et autre affaire, alors 10 ans plus tôt, cette fois-ci c'est en décembre, c'est amusant, c'est toujours en décembre.
Et c'est le même prénom.
Même prénom, on est en 1986, au Creusot, c'est une jeune adolescente de 16 ans qui elle aussi est assassinée. Alors, Raphaël Nedilko, bien sûr, au cœur de votre témoignage, intitulé « L'obstiné », c'est lorsque vous êtes à la brigade de Dijon, après avoir passé 7 ans au quai des Orfèvres, c'est un peu la Rolls-Royce judiciaire, le quai des Orfèvres, on pense au film d'Henri-Georges Clouzot, parce que c'est les affaires Landru, Petiot, enfin c'est vraiment... un mot peut-être sur ces 7 ans passés, où finalement... Vous défendez une identité de flic à l'ancienne, c'est ce que vous êtes, Raphaël, si je puis me permettre?
C'est ça. Alors, de par ma génération, je suis entré dans la police en 1996 et j'ai eu l'occasion de connaître deux polices diamétralement opposées. La première qu'on pourrait qualifier par le terme de police à papa, c'est-à-dire une procédure animée par des anciens inspecteurs. J'ai appris à déconstruire tout ce que j'avais reçu de façon totalement théorique à l'école de police et au cours de mes précédentes différentes affectations, pour tout réapprendre au sein d'un groupe que je décris dans mon livre, qui est un groupe de têtus et de joyeux braillards, mais qui m'apprennent vraiment à conjuguer l'humain à la procédure judiciaire. Et je suis amené très très rapidement dans ce groupe d'enquête à m'intéresser à énormément de dossiers criminels, puisqu'on prenait en moyenne et par groupe au Quai des Orfèvres à l'époque environ 14 homicides par an, aussi bien en France qu'à l'étranger, puisque je suis connu pour la résolution de deux cold cases, mais j'en ai résolu bien d'autres de façon beaucoup plus collégiale, qui m'ont emmené jusqu'en Amérique du Sud en pleine zone de narcotrafic. Et c'est dans ce service que j'ai appris vraiment la procédure avec tout ce qu'elle a de noble, et puis à découvrir ce que l'humain était capable de faire à son semblable, jusqu'à ce que, poussé à bout par une affaire de trop, qui est l'affaire de Ilan Halimi, ce jeune de confession juive qui avait été enlevé par Youssouf Fofana et ses lieutenants, j'ai fait prévaloir mes droits à la mutation en province.
D'ailleurs, lorsque vous arrivez à Dijon, vous dites que vous découvrez une brigade. Vous écrivez: j'ai quitté la ruche du 36 pour une niche à chats. Et d'ailleurs, un peu plus loin, vous écrivez: des chats de coussin nourris au chéba. Pas très gentil pour les collègues de Dijon.
C'est oui. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite pointe de sarcasme dans mes propos, mais c'est vraiment tout ce qui vient diamétralement opposer la police judiciaire de province à la police parisienne que j'ai connue. C'est que là, vous quittez une fonction pour une espèce de statut social. C'est-à-dire que les gens sont un petit peu cantonnés dans un rythme de vie lignifiant, où justement les affaires sont plus une occupation et une façon de justifier son salaire à la fin du mois. Alors que parallèlement, et c'est tout le cœur du livre, je découvre un portefeuille de dossiers de jeunes filles assassinées entre 1984 et 2005 qui sont au point mort.
Revenons un peu. Donc c'est au moment où vous êtes à Dijon que vous vous replongez dans ces dossiers qui ont plus de 10 ans.
Oui, beaucoup plus que 10 ans. Oui, 23 ans pour l'affaire Christelle Maillery.
Donc Christelle Maillery, c'est en 86, et l'affaire Christelle Blétry en décembre 96. Vous regrettez d'ailleurs finalement, ce qui est un peu un des défauts de la société, vous regrettez un peu la tendance à l'individualisation du traitement des dossiers criminels.
Oui, c'est quelque chose qui vient encore une fois s'opposer à ce que moi j'ai appris, hein. C'est cette sauce procédurale des inspecteurs à l'ancienne où tout se fait ensemble, tout le monde doit connaître tout sur tous les dossiers dans un groupe tel qu'il est constitué dans le service auquel j'appartiens. Et là, c'est l'inverse, en province, chacun son petit dossier et garde bien ses oreilles dans son écharpe et ne regarde pas la copie du voisin.
Bien sûr, vous racontez de quelle manière vous reprenez ces affaires en lisant les PV de l'époque. D'ailleurs, les procès-verbaux, vous-même, vous êtes extrêmement minutieux, très respectueux de la langue française, écrivez-vous.
Ah oui, j'ai été éduqué dans la langue française par ma sœur aînée, qui est professeure de lettres modernes. Et c'est quelque chose qui vient, nourrir ma motivation à entrer dans l'administration, c'est-à-dire cette approche scientifique, puisque moi, j'ai été en université de Bourgogne en sciences de la structure de la matière après l'obtention de mon baccalauréat, la matière juridique et la matière littéraire. C'est cette jonction de ces trois matières qui m'anime au quotidien. Donc oui, j'aime les PV extrêmement précis, et un mot est un mot. Avec un mot, on peut complètement changer le sens d'une phrase.
Alors j'aimerais que vous nous expliquiez pour quelles raisons les enquêteurs disposent-ils aujourd'hui d'une véritable chance du fait que les gardes à vue sont filmés. Alors, pourquoi est-ce une chance, Raphaël Nedilko?
Alors, moi, je me souviens surtout, pour que vous puissiez bien comprendre qu'il s'agit d'un domaine important, c'est quand la vidéo est intervenue dans la garde à vue, mes collègues braillards de l'époque ont estimé que c'était simplement un moyen de nous surveiller, nous. Alors que pas du tout. Moi, j'ai très rapidement remarqué que c'était déjà un moyen de consolider l'approche testimoniale et probant des éléments d'audition tel qu'il se déversait dans une procédure criminelle, puisque je le rappelle, l'audition est obligatoire dans tous les domaines pour les mineurs et dans le domaine criminel pour les majeurs. Mais c'est surtout que c'est un document de travail, et on l'a bien vu dans la juridiction de jugement de l'affaire Christelle Blétry. on a été amené à visionner les auditions faites de Pascal Jordin, parce que justement, il m'accusait de lui avoir extorqué ce qu'il considérait être comme des faux aveux.
Alors, les aveux, vous dites que c'est ce que vous aimez le plus obtenir. Oui. On a l'impression qu'il y a une jubilation du brigadier-chef major, maintenant, Raphaël Nedilko, à avoir les aveux.
Oui.
Et tout ça, Raphaël, vous l'expliquez bien, dans le respect, parce que vous respectez, bien sûr, les victimes, les familles. Ça, vous expliquez aussi combien la justice a trop souvent maltraité les familles. Et peut-être les familles, quand socialement elles sont modestes.
Surtout.
Hein, c'est ce que vous...
Ah, je l'affirme.
Vous ne le laissez pas entendre, vous l'écrivez.
Ah non, 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 c'est un roman de la transparence. Oui, oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'a pris au cœur. Hein, c'est vraiment l'âme centrale de ce livre-là. C'est que sans ces familles, sans l'association qui les réunit, sans leur avocat, je n'aurais pas pu faire mon travail. On prétend faussement envisager que le policier est un personnage omnipotent, voire omniscient, avec une carte de réquisition, une arme de service, et que face à cela, toutes les portes s'ouvrent. Ce n'est pas le cas. Si je n'avais pas eu Marie-Rose Blétry, si je n'avais pas eu Marie Pichon, si je n'avais pas eu l'association Christelle, s'il n'y avait pas eu en ce lieu des repas d'encens, s'il n'y avait pas eu des ventes de brioches et de coloquintes, s'il n'y avait pas eu cet aiguillon pour faire bouger la justice par la voie des médias, je n'aurais pas pu faire simplement le travail pour lequel j'ai été payé. Et c'est toute l'histoire du livre, et c'est tout un paradoxe, puisque un cold case, puisque je suis obligé de citer l'anglicisme, c'est pas seulement un meurtrier dans la rue, c'est aussi une famille dans la souffrance, et les deux ne peuvent pas être séparés, les deux ne peuvent pas être pris sous des angles différents. Et je le dis, je le répète, sans toutes ces personnes, je n'aurais rien pu faire.
Au niveau des scellés, par exemple, et au niveau, par exemple, de l'ADN, ça, je l'ignorais, c'est que finalement, faire une expertise ADN sur du tissu, sur un poignard, enfin, quelque objet que ce soit qui, donc, est un scellé et qui fait partie du dossier judiciaire, peut coûter des fortunes. Vous mentionnez un devis d'expertise ADN à plus de 200 000 euros.
Oui, 201 700 euros, oui, effectivement. C'était le devis qui a été avancé par le laboratoire de Bordeaux pour l'expertise de la totalité des scellés dans l'affaire Christelle Blétry. Mais l'ADN représente bien plus de problèmes que cela en dehors de son coût. Ce qui me gêne dans l'ADN, c'est le fait qu'on lui accorde un caractère exclusif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première condition pour laquelle on pourrait décider qu'un dossier ancien, refermé ou pas, puisse partir dans une juridiction spécialisée pour les cold cases, tout repose sur le fait qu'on ait de l'ADN ou pas. Et c'est pour ça que l'évocation de ces deux affaires dans le livre était importante, puisqu'on a deux affaires qui se ressemblent parce qu'elles sont à quelques kilomètres l'une de l'autre, 10 ans jour pour jour, avec le même prénom de victime, Christelle, le même mode opératoire. Dans l'affaire Christelle Maïry, on n'a pas d'ADN. Dans l'affaire Christelle Blétry, on en a. Pourtant, ces deux affaires, qui étaient prétendument insolubles, l'ont été. Elles ont été résolues. Et la difficulté pour moi, lorsqu'il s'est agi de demander, de solliciter la justice au nom des familles pour que les expertises soient faites à un tarif faramineux pour l'affaire Blétry, c'était de vaincre aussi le fait qu'en 2005 et en 2007, ces scellés avaient été déjà expertisés, qu'on n'avait rien trouvé. Donc mes collègues partaient du postulat qui était de dire « ces affaires, tu n'y arriveras pas, on n'a pas d'ADN ». Non, on n'a pas d'ADN à la lumière du niveau d'expertise qui était celui des laboratoires au moment où les expertises ont été faites. Donc il fallait vaincre aussi cette incapacité qu'on a de faire une analyse qui est réelle, crédible sur les affaires. Et toujours la nécessité de remettre l'humain au cœur de l'équation pour pouvoir réfléchir et prendre en considération ce qui doit être normalement le cas lorsqu'on fait une telle réflexion et qu'on décide de défaire les cordons de la bourse.
Alors dans l'affaire de Christelle Paillery et de Christelle Blétry, vous retrouvez les assassins, les meurtriers de ces jeunes femmes. Il y a d'un côté Jean-Pierre Murat pour l'affaire Paillery, et puis c'est Pascal Jardin pour l'affaire Blétry. Mais concernant ces hommes qui ont commis l'irréparable et quelque chose de monstrueux, vous écrivez, c'est au tout début de votre ouvrage, « Je ne crois pas aux monstres, je ne fais face qu'à des hommes qui ont commis des actes monstrueux ». Vous ne croyez pas aux monstres ?
Non. Non, ça, de toute façon, c'est mon postulat de départ. Depuis toujours, d'abord, parce que j'ai été élevé dans le respect de l'humanité et dans la foi chrétienne, même si je ne fais aucun prosélytisme religieux dans mon livre. Le plus important pour moi, c'est d'affirmer que la vérité, aussi sombre soit-elle, doit rester un but à atteindre, ça doit rester une réjouissance, ça doit rester la motivation de toute une vie. La vérité, on se la doit, et y compris la vérité qui consiste à tirer les leçons de nos manquements dans les affaires qui n'ont pas été résolues ou celles qui ont mis beaucoup de temps avant de l'être, mais aussi c'est une façon d'envisager l'importance de remettre l'humain au cœur de l'équation. Je ne suis pas là pour juger les gens, je suis là pour établir des faits à charge et à décharge dans le respect de chacun, à commencer par les familles de victimes.
Et d'ailleurs, concernant l'accusé, vous écrivez, page 253 de votre livre, dont je rappelle le titre, hein, L'obstiné, vous écrivez « Ne pas mépriser l'accusé, je suis capable de déclarer que ce dernier s'est montré coopératif, sympathique, en proie à la culpabilité, toutes choses qui lui font honneur, même s'il est la dernière des crapules, ou le pire des criminels, même s'il a montré un tout autre visage par ses actes, voire s'il est infect le jour du procès. » Il faut dire aussi, Raphaël Nedilko, vous l'écrivez, à l'âge de... Alors, votre père est un russe ukrainien d'origine,
oui.
Enfin un véritable russe ukrainien qui a épousé une française. Donc vous êtes devenu catholique. Vous l'avez dit combien la religion a une place importante dans votre âme et dans votre cœur. Vous avez un temps songé, jeune homme, à être prêtre.
C'est exact. Ah, vous voulez que je réagisse sur... Oui.
Éventuellement.
Oui, effectivement, oui, oui. J'ai pensé depuis tout jeune à devenir prêtre, y compris lorsque j'étais dans les rangs de la police nationale. Et puis j'ai rencontré un jour Guy Gilbert, le prêtre parmi les loubards. J'avais déjà rencontré à l'université de Bourgogne et j'ai rencontré à la fête de la Saint-Martin, qui est le patron des policiers, donc à Paris. Et donc on avait une correspondance, lui et moi. On s'écrivait très, très régulièrement. Je lui ai fait part justement de mes doutes, de rester dans une institution qui malheureusement me faisait souvent prendre des postures compliquées. Donc j'étais pris entre le marteau et l'enclume, donc une institution parfois un peu froide et un peu cynique. Et moi, ce pourquoi j'avais été fait et élevé, et j'envisageais de rentrer donc dans les ordres comme prêtre séculier. Mais j'avais le même problème avec l'Église, parce que j'étais déjà témoin de positions de l'Église qui ne me revenaient pas et venaient altérer ma foi. Et lors d'une rencontre, il m'a dit, écoute, des curés, on en trouvera toujours. Hein. Par contre, des policiers chrétiens debout et qui disent ce qu'ils pensent, on en aura toujours besoin. Donc, si tu veux, mon avis reste dans la police.
Et vous expliquez aussi dans ce témoignage, l'obstiné, qu'à l'âge de 4 ans, vous avez failli être amputé, que très jeune aussi, vous commenciez à perdre vos cheveux, qu'à l'école, vous étiez le fils de Russe, et que tout de même, vous avez connu la différence dans l'enfance.
Oui, beaucoup. En fin de compte... sans vouloir spoiler le livre, c'est très important et ça peut se conjuguer pour chacun et chacune d'entre nous. Tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, toutes les épreuves bonnes ou mauvaises que j'ai eues, jusqu'à mes rencontres avec les familles des victimes, ont porté leurs fruits. C'est-à-dire que c'est comme un tableau, une vie c'est comme un tableau, il faut attendre qu'il soit terminé, puis il faut prendre un petit peu de distance et voir ce qui se produit, voir ce qui apparaît sur la toile. Et je peux vous dire que de ce que j'ai vécu auprès de toutes ces familles pour lesquelles j'ai le plus grand amour et le plus grand respect, n'a pas fini de se manifester. Le livre fera encore des petits, il y a encore des énormément de projets autour de tout ça, et je suis très à l'aise et déterminé pour poursuivre mon combat pour la résolution de ces crimes anciens non résolu, tant que Dieu me prêtera vie.
Il faut dire aussi que dans votre famille, il y a deux drames qui sont très bouleversants. Il y a la mort de votre grand-mère. Alors, c'est une mort, c'est en mars 1985. Votre grand-mère a trouvé la mort dans des conditions assez affreuses.
Oui, ma grand-mère vivait seule dans le Jura et elle avait un de ses chiens qui était censé la protéger, qui prend un coup de folie et l'égorge ma grand-mère. Et ça a été absolument dramatique pour moi, parce que c'est la seule grand-mère que j'ai connue, mes grands-pères étant tous les deux morts avant ma naissance, et mon autre grand-mère étant yougoslave, donc j'avais la barrière de la langue, et elle vivait à grande distance de chez moi. Et ça a provoqué chez moi la rupture brutale et profonde de l'enfance heureuse et innocente. Donc j'ai été élevé après comme un enfant adulte, adultiste, c'est-à-dire que je me suis, avec ma sœur, géré tout seul. Mais la mort de ma grand-mère a été accompagnée de son cortège d'évocations judiciaires et médico-légales, notamment avec l'évocation de, c'est la première fois que j'en entendais parler, d'autopsie. Et donc j'ai été touché par cela. Et le deuxième événement, puisque...
Alors c'est en 2009, oui, c'est votre 2009, cousin qui est tué par
l'ex... Oui, qui est assassiné, oui, effectivement.
L'ex de votre cousine.
C'est qui est assassiné par l'ex-mari de sa compagne. Par l'ex-mari de sa compagne, c'était un commando de marine, et donc il avait eu un affrontement avec cet homme-là, pour lequel il avait eu le dessus. Et donc l'homme l'avait pris par surprise, et donc l'a tué d'un coup de couteau en plein cœur un soir. Et ça m'a permis, justement, juste avant, ça s'est produit juste avant que je prenne en charge ces affaires non résolues de Christelle Maillet et Christelle Blétry, de connaître l'assassinat dans ma propre famille. C'est le cousin dont j'étais le plus proche, oui.
Bon, comment voyez-vous l'avenir ?
Alors, avec beaucoup de difficultés, hein, puisque déjà, comme je l'ai dit, j'ai un pied dans chaque police, la police à papa et la police d'aujourd'hui, et malheureusement, notre police est à l'image de la société qu'elle est censée protéger, une société 2.0 qui est une société sans espoir, sans vocation, individualiste.
Et vous écrivez, d'ailleurs, c'est une des phrases... Le flic ramasse la merde d'une société qui ne connaît que le marche ou crève.
Oui, je suis convaincu que les institutions qui sont les nôtres, aussi bien dans la médecine, dans l'enseignement, dans la police, la justice dans son ensemble, les institutions sont des machines à broyer les belles âmes. Ce que je n'ai pas apprécié et qui a motivé l'écriture du livre, je n'avais pas pour vocation première d'être un auteur, c'est que j'ai trouvé le moyen dans l'écriture le plus efficace et le plus pérenne de jeter une bouteille à la mer au nom de toutes ces personnes que j'aime et que j'ai défendues toutes ces années. Et le marche ou crève, c'est cela. Mais ce que je n'ai pas supporté, c'est d'être tiraillé et d'être critiqué, voire même menacé, alors que je ne faisais que dire la vérité et de faire ce pourquoi j'étais rentré dans la police.
En tout cas, un message d'espoir quand même aussi.
Toujours.
Raphaël Nedilko, donc l'invité d'honneur du Festival du Livre de Blanzy, L'Obstiné, avec Catherine Siguret, c'est chez Studio Fact. Et vous pouvez applaudir Raphaël Nedilko.
Merci. Merci.
Raphaël Nedilko, à l'instant, enregistré lors de la table ronde de la matinée du Festival du Livre de Blanzy, c'était le 15 octobre dernier. Raphaël Nedilko, major de police et également écrivain avec ce premier livre dont je vous rappelle le titre, L'Obstiné, paru aux éditions Studio Fact. Nous allons marquer un premier intermède musical et puis nous vous proposerons juste après la suite de cette table ronde, coup de projecteur sur le roman de Sylvie Vosgic, Les dernières volontés de F.R. MacFerguson, paru aux éditions Arléa. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Moi, j'ai peur de finir vieux, de penser comme eux. Si j'oublie mes rêves, s'il te plaît, réveille-moi. J'ai peur de finir vieux, de penser comme eux. Si j'oublie mes rêves, s'il te plaît, réveille-moi. Je vois ma route se tracer, je vois les gens se barrer. Je recommence à bader, de finir aussi vieux que mes regrets. Avant c'était cool, comment c'était facile. Rappelle-moi de garder cette manière de regarder les choses.
Instant, pas besoin de perdre ton temps. J'attends pas demain, moi je veux vivre maintenant. De toute façon je suis instable, pas besoin de perdre ton temps. Pour ça, pour ça.
Moi, j'ai peur de finir vieux, de penser comme eux. Si j'oublie mes rêves, s'il te plaît réveille-moi. J'ai peur, réveille-moi. Je recommence à compter les mois, je vois les jours s'effacer dans le noir. Y'aura jamais de remède à ça, docteur aura nada pour moi. Me laisse pas dire c'est plus de mon âge. Et si je laisse pourrir mon âme, faudra retourner les pages pour remonter le temps.
Mais je vois que la poussière en part vague dans l'appartement. Pardonne-moi si j'ai peur de grandir maintenant. Que le moteur tourne encore, si je reste ici je vais pourrir. Je peux pas attendre 100 ans, ici rien ne changera. Je suis instable, pas besoin de perdre ton temps. J'attends pas demain, moi je veux vivre maintenant. De toute façon je suis instable, pas besoin de perdre ton temps.
Si vous venez de prendre en cours de route notre émission littéraire, sachez que nous vous proposons aujourd'hui l'enregistrement d'une table ronde de trois écrivains dans le cadre du Festival du Livre de Blanzy qui s'est tenu les 14 et 15 octobre dernier. La table ronde, elle, a été enregistrée le dimanche 15 octobre. Vous avez pu entendre Raphaël Nedilko, invité d'honneur du Salon du Livre de Blanzy. Et cette fois-ci, je vous propose de découvrir le roman de Sylvie Vosgic intitulé « Les dernières volontés de Heather MacFerguson ». Sylvie Vosgic qui vit à Strasbourg, qui est originaire de Blanzy. Elle a publié aux éditions Arléa en 2021 un roman intitulé « Les Narcisses Blancs ». Et cette année, elle revient sur le devant de l'actualité littéraire avec ce nouveau texte intitulé « Les dernières volontés de Heather MacFerguson ». Alors au cours de cette table ronde avec Sylvie Vosgic, je lui ai demandé de se présenter un peu à notre micro.
Alors, je suis originaire de Blanzy. J'ai grandi à Blanzy. Mes parents habitent à Blanzy, ainsi que ma famille depuis plusieurs générations. J'ai fait des études de langue à Lyon, à l'Université Lyon 2. Et je suis devenue ensuite traductrice français, anglais, allemand. J'ai exercé pendant 17 ans en région parisienne, à la fois en tant que salariée et en tant que traductrice libérale. Et je vis maintenant à Strasbourg, où j'exerce toujours ce métier de traductrice.
Sylvie Vosgic, avec ce roman « Les dernières volontés » de Heather MacFerguson, vous nous racontez l'histoire d'un homme de la maturité. Hein. C'est un homme qui a un certain âge, il a plus de 50 ans.
Il a une quarantaine d'années à peu près.
Quarantaine d'années au moment des faits. Et ses parents sont décédés et un jour, il est contacté par un notaire écossais qui veut le rencontrer et qui lui explique qu'une Heather MacFerguson fait de lui son légataire. Or, cet homme, qui se prénomme Aloïs, ne connaît absolument pas cette femme. Cette Heather MacFerguson n'est absolument pas connue même de ses parents. Enfin, du moins, oui. Pense-t-il au départ. Cette femme est une inconnue et elle lui lègue à Inverness une jolie petite maison en Écosse, Sylvie. Sylvie, j'ai vraiment un problème avec votre prénom, je vous prie de m'excuser. Quel est le point de départ à cette intrigue qui voit un homme accepter cet héritage, se rendre en Écosse et y découvrir ce que les adultes lui ont caché?
C'est-à-dire qu'il reçoit... En fait, Aloïs est un libraire parisien qui vit à Paris comme dans un village, un petit peu, donc il quitte très peu son quartier. Et donc, il n'est jamais allé à l'étranger, il parle assez mal anglais, voilà. Donc, il reçoit cette lettre, et quand il reçoit la lettre, bien entendu, il va essayer de chercher... si cette femme fait partie de sa famille, si il n'a pas des origines écossaises, donc il va retrouver une malle où il y a toutes les affaires de ses parents, tous ses souvenirs. Il va trouver un livre, notamment les livres qu'il lisait quand il était enfant, un livre que son père, qu'il a découvert avec son père, le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et il le prend, il part avec, et puis il se dit, bon, finalement, je connais pas l'Écosse, bon, je vais aller voir quand même cette histoire avec cette maison. Donc il part, il arrive à Édimbourg, à l'aéroport d'Édimbourg, il arrive à Apple Cross, dans ce petit village. Il prend possession de la maison, il accepte l'héritage. Et il découvre cette maison, qui est la maison de quelqu'un d'autre, mais finalement, il est assez familier, enfin, il ne se sent pas trop étranger dans cette maison, dans ce village.
Une maison derrière laquelle, il faut dire, Sylvie, se trouve le fumoir à saumon.
Voilà.
Et qui est un lieu magique.
Oui, en fait, en Écosse, on voit souvent ça. Enfin, il y a souvent des fumoirs, des petites cabanes où on fumait les saumons. Donc c'est le repère de la maison parce qu'on lui dit au début vous allez trouver facilement puisqu'il y a un fumoir à saumon, c'est la dernière maison et c'est vrai que ce fumoir recèle aussi beaucoup de... En fait, il y a des livres là-dedans. que Heather avait conservé, qui est une femme, il va apprendre petit à petit que c'est une femme qui lisait beaucoup, qui avait une imagination débordante.
Qui a aimé un homme, qui l'a abandonné, qu'elle a fait.
Oui, bon, ça, faut pas trop dire. Enfin, petit à petit.
La difficulté de votre roman, si je puis me permettre, qui est superbe. C'est une pépite. C'est peut-être, je le dis très sincèrement, un des plus beaux romans que j'ai lu en cette année 2023. C'est toute une enquête. Oui, vous pouvez l'applaudir. C'est absolument sublime. Et à partir du moment où effectivement notre Aloïs en Écosse mène l'enquête sur qui est cette femme qui me fait le légataire de sa maison. Et puis après, il y a un coffre contenant des lettres. Écrite en 69, il les lit. Donc, ce roman, on ne peut pas trop le raconter, sinon on déflore les secrets et la quête de Aloïs. Mais c'est, quelque part, j'ai trouvé une forme. Alors, vous me corrigez si vous trouvez que je tords un peu trop la mythologie. C'est une forme de réécriture du mythe du naufragé qui doit revenir chez lui. Il y a un peu de cela. Il y a un naufragé qui est recueilli.
Oui, il y a un naufragé donc 40 ans avant qui est arrivé là. Donc Heather MacFerguson qui vivait dans cette maison qui est une maison familiale, elle a recueilli cet homme qu'elle a trouvé échoué sur une plage. Voilà, elle l'a caché parce qu'il y avait on savait pas trop bien d'où il venait et lui ne voulait pas être qu'on sache qui il est. Donc il y a eu cette histoire. Il y a l'histoire aussi avec le livre. En fait, il y a un livre dans le livre qui est quand même très important, Le Seigneur des Anneaux.
Pourquoi Le Seigneur des Anneaux? Sa carte détachable de la Terre du Milieu. Pourquoi ce roman-là plutôt qu'un autre?
Parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Et qui, quand j'ai lu ce livre la première fois, ça m'a fait penser à l'Écosse. Et aussi, quand je suis allée en Écosse, les paysages, ça m'a fait penser au Seigneur des Anneaux. J'ai revu des passages du Seigneur des Anneaux et c'est un petit peu aussi une quête qui est aussi un petit peu la quête d'Aloïs, enfin, sans que ce soit à ce point-là. Voilà. Mais l'idée, c'était de mettre un livre dans le livre et un livre qui soit le fil conducteur, parce que ce livre est très important. C'est quand même ce qui...
Il livre un indice, en tout cas.
Il livre un indice.
Tout à fait. Ouais. Et alors, ce qui est aussi, me semble-t-il, essentiel dans votre roman, c'est le fait que nos parents peuvent nous avoir caché des épisodes de leur vie.
Oui,
le dire.
Alors, c'est des secrets. C'est effectivement un secret de famille, donc qui ne connaissait pas, ils se doutaient de rien, effectivement. Et c'est une histoire, enfin une partie de son histoire indirectement qu'on lui a cachée. Mais c'était pas pour. Il y a des raisons pour lesquelles le personnage a caché cette histoire à son. Aloïs, voilà.
Et ce qui est superbe dans ce décor d'eau, de pierre et de lumière, ce sont les... Alors, autant j'ai dit que votre roman était à mes yeux une pépite, mais je dirais le diamant de la description. Et je voudrais lire un paragraphe donc, du roman de Sylvie Vosgic, Les dernières volontés de Heather MacFerguson chez Arléa. Cet après-midi, à marée basse, Aloïs va voir Jim sur la presqu'île. Bon, Jim, on peut le dire, c'est un des habitants de la presqu'île que Aloïs va rencontrer et qui lui aussi va lui apporter un certain nombre d'informations sur Heather.
Alors Jim, c'est un personnage assez qui est haut en couleur. En fait, c'est un Écossais issu d'un clan... donc d'une famille riche, influente, qui s'est coupé, qui s'est vraiment détaché de sa famille et qui...
Une sorte de révolté.
Voilà, et qui est très attaché à sa terre, donc il s'est retranché sur sa presqu'île qui lui appartient avec ses moutons.
Avec ses moutons. Voilà.
Et donc Aloïs fait la connaissance de Jim et on va naître une amitié entre deux. Et il va aller le voir et effectivement, Jim va lui apporter certains indices.
Alors, je continue cette description, donc. Il y restera plusieurs jours parce que la tempête s'est levée et qu'il est impossible de repartir. Même aller jusqu'à l'enclos à moutons est une course contre les éléments, les jets de pluie à l'horizontale écartant tout obstacle sur leur chemin. Jim garde ses bêtes à l'écurie et les deux hommes restent à l'intérieur pendant deux jours. Mais je voudrais vous lire surtout alors une autre description du paysage qui est absolument sublime. C'est page 141-142. Accordez-moi quelques secondes que je retrouve le passage. Aloïs part de chez lui peu après le lever du jour. Cette fois-ci, il ira jusqu'au bout. Le paysage l'accueille, s'ouvre devant lui comme un jardin familier. Il avance, ajoute à chaque cairn une pierre sans même s'arrêter. Il ne cherche plus le chemin du Loch Quar, il l'arpente à grandes enjambées. Il a dépassé les eaux troubles des tourbières, où les herbes brunissent et les linaigrettes perdent leur duvet. La végétation se fait de plus en plus rare. Les montagnes de Torridon se révèlent dans toute leur force. Des rocs, parmi les plus anciens d'Europe, qui ont traversé les airs, les glaciations et toutes les vicissitudes de la Terre. Et derrière, un tissu brut et minéral, le Loch Quar, une eau miroir, aux reflets plus vrais que le paysage lui-même. Aloïs a atteint son but. Il s'approche du bord. Son image est parfaite, lisse, plus de flou, plus de remous. Son visage est net et franc, et par-dessus son épaule, il sent la présence invisible de celui qui, depuis toujours, veille sur lui. C'est aussi, pour Aloïs, l'adoption d'une terre. Promesse de renaissance pour lui à un âge au milieu de son existence, finalement. Il va laisser la France de côté et adopter l'Écosse et la maison qui lui a été transmise.
Oui, il est à un moment de son existence où il y a une rupture dans sa vie. Et donc, arrivé en Écosse, il va un peu prendre possession de ce paysage qui est quand même très prenant. Enfin, quand on va là-bas, quand on marche là-bas, on est vraiment pris par cette ambiance, par le brouillard qui se lève petit à petit, l'humidité aussi, la pluie, le vent. Et tout ça, à la fois le paysage, à la fois les personnes qu'il va rencontrer là-bas, et puis il va se rendre compte que il fait un petit peu, ça fait partie de son histoire, que quelqu'un d'autre de sa famille a vécu là-bas, il va le ressentir lui-même. Donc ça va il va décider de rester.
Un merveilleux roman dont je rappelle le titre, Les dernières volontés de F.R. Mark Fergusson, sous la plume talentueuse de Sylvie Vosgic, et c'est aux éditions Aléa. Quels sont vos projets, Sylvie Vosgic?
Il n'y a pas de projet précis. Enfin, il y a toujours des projets, l'écriture.
J'entendais par là, peut-être déjà le prochain roman est-il en cours d'écriture?
Il est en cours d'écriture parce qu'il y a toujours plein de choses en cours d'écriture, mais il n'est pas finalisé, il n'y a pas de projet éditorial pour l'instant.
Avant de nous quitter, la question redoutable. Vous, Sylvie Vosgic, dans le roman, où êtes-vous? Vous êtes un peu ever, là.
Je ne pense pas.
Non, vous n'êtes jamais. Vous ne vous mettez jamais dans vos romans.
Je ne pense pas être dans mes romans. Je ne me mets pas volontairement dans mes romans. Dans celui-ci, non, je ne suis pas du tout Heather. Je ne suis pas. Même si c'est un homme.
Il y a Hélène qui a bien connu Heather.
Oui, mais c'est vraiment l'Écosse qui m'a inspirée et le fait d'aller là-bas, de rencontrer des gens. Ce ne sont pas des gens qui ont vécu, enfin, qui vivent, qui sont vivants, qui sont réels, je veux dire, mais. mais moi je ne pense pas être dans mes romans, justement j'essaye de, enfin ce que j'aime quand j'aime écrire, c'est justement inventer des personnages, une fiction, je ne cherche pas en tout cas à me placer dans mes romans. Après il y a toujours des choses de soi-même qui peuvent ressortir, mais je peux pas dire Heather c'est moi, elle me ressemble, non pas du tout.
Bien évidemment ce n'est pas un roman policier, mais c'est une enquête et une quête des origines, un petit peu.
Oui, c'est plus une quête qu'une enquête, même s'il y a un semblant d'affaire qui explique pourquoi le naufragé est arrivé ici.
C'est vrai, oui.
Mais c'est pas du tout l'objet du livre. En fait, l'objet du livre, c'était la quête d'Aloïs et le fait de retrouver par le personnage, par la géographie, par les marches qu'il fait là-bas, de retrouver une ambiance et d'être en communion avec cette personne qui lui a légué sa maison.
En tout cas, je vous remercie de l'immense bonheur de lecture que vous m'avez offert il y a quelques semaines en découvrant votre roman. Et l'idée qui, moi, me fascine, c'est que nos parents ne nous disent peut-être pas tout. Et je
Merci.
Pense que c'est vrai. Nos parents ne nous disent peut-être pas tout. Et c'est peut-être
leur
droit.
Non, c'est pas du tout autobiographique, je précise.
On passe... Oui, vous pouvez. Merci, cher public.
Je vous confie à nouveau les références du roman de Sylvie Vogic que vous venez d'entendre lors de l'enregistrement de la table ronde du dimanche 15 octobre dernier dans le cadre du Festival du Livre de Blanzy, Les Dernières Volontés de F.R. MacFerguson, paru aux éditions Arléa. Je mentionne également aussi un autre roman de Sylvie Vogic paru, lui, en 2021 et qui a pour titre Les Narcisses Blancs. Wagon Livre revient juste après une nouvelle virgule musicale et pour vous offrir la suite de cette table ronde enregistrée en public lors du Festival du Livre de Blanzy, c'était le dimanche 15 octobre dernier, vous ferez connaissance, juste après la petite virgule musicale que nous allons vous offrir, vous ferez connaissance avec Farah Dweeby pour un livre de contes illustrés intitulé Le Bâtisseur ou Le Bâtisseur qui ne savait pas dire non. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on se retrouve juste après un nouvel intermède musical.
Pied dans le réverbère, un homme assis au soleil couchant, s'assoupit. Il avait tout ce jour essuyé la poussière de ce réverbère. S'endort au son des claquetis de la pluie sur les dalles de béton clair. Le voilà qui s'installe. L'homme vieillit contre ce réverbère. Il se taire, de se défaire de ses insomnies. Le voilà qui s'étend aussi loin aujourd'hui, aussi long. Thank you.
Merci de nous accompagner en cette fin de matinée du samedi 11 novembre 2023. Votre émission littéraire vous propose aujourd'hui l'enregistrement d'une table ronde qui s'est tenue le dimanche 15 octobre dernier dans le cadre du Festival du Livre de Blanzy. Je rappelle que Blanzy, c'est en Saône-et-Loire, Festival du Livre organisé par l'association Mine de Lire qui avait choisi cette année comme invité d'honneur le major de police Raphaël Nedilko, qui est également écrivain, que vous avez pu entendre et qui signe donc un premier texte aux éditions Studio Fact intitulé L'Obstiné. Et puis vous avez pu également entendre la romancière Sylvie Vogic évoquer son dernier roman paru chez Arléa et qui a pour titre Les dernières volontés de F.R. MacPherson. Nous allons entendre le troisième et dernier auteur qui a été convié à cette table ronde que j'animais en public avec beaucoup de plaisir, et je salue et remercie Yves Jacob ainsi que tous les bénévoles de l'association Mine de Lire pour leur confiance et leur accueil extrêmement chaleureux. Je voudrais aussi avoir une petite mention toute particulière et qui a son importance, c'est saluer et remercier Christophe Royer qui a organisé toute l'installation technique pour permettre l'enregistrement de la table ronde que vous entendez aujourd'hui sur l'antenne de Radionne. Justement, nous découvrons le troisième auteur qui était convié à s'exprimer sur un très beau livre de contes intitulé Le Bâtisseur ou Le Bâtisseur qui ne savait pas dire non. Je vous propose d'entendre Farah Dwibi à qui j'ai demandé de se présenter à notre micro.
Je suis dijonnaise. J'ai 41 ans, j'ai beaucoup roulé ma bosse dans la société, j'ai fait une quarantaine de métiers différents avec 17 déménagements, donc je me suis beaucoup cherchée et c'est ce qui m'a amenée justement à faire cette série de contes, parce que dans cette société où je me suis cherchée, je me suis perdue pendant en fait une vingtaine d'années. Et c'est en me retrouvant, en identifiant les schémas un peu tortueux qui m'empêtraient, qui m'empêchaient d'être vraiment moi-même, que j'ai compris qu'il fallait que je fasse la même chose pour les autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'identifiais un schéma un peu tortueux qui m'empêtrait dans cette société, j'imaginais un petit conte qui me permettait d'en sortir. Et puis au bout d'une cinquantaine de petits contes comme ça, écrits à la va-vite, avec juste un petit squelette d'histoire, je me suis dit que ça serait bien d'en faire profiter les autres. Et c'est comme ça qu'est né le premier conte, et qui sera suivi d'à peu près 25 à 40 autres titres, à chaque fois identifiant un schéma un peu tortueux dans lequel on peut se perdre, expliquant comment il fonctionne et proposant des sorties possibles.
Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est ce que vous écrivez dans la préface. Alors, je ramène ça aussi, et chaque lecteur ramène ça à son expérience personnelle, à des souvenirs où l'on a fait parfois, nous semble-t-il, beaucoup pour les autres, au détriment de soi. C'est cela que vous voulez montrer à travers l'histoire de votre petit jeune homme. C'est l'histoire d'un petit jeune homme qui a commencé à construire sa maison. Donc c'est très allégorique,
bien évidemment.
Tout à fait, on construit
la maison comme on construit une vie.
Il est au royaume de sagesse, c'est un jeune homme serviable, généreux, et plusieurs personnes, successivement, viennent toquer à sa porte. Alors, tantôt, c'est... alors, j'ai un peu oublié, il y a le boulanger, différents artisans. Et à chaque fois, des personnes viennent solliciter ce jeune bâtisseur. Hein, rappelons le titre de ce conte album illustré, Le Bâtisseur. Et à chaque fois, il interrompt la construction de sa propre maison pour aller construire ou finir les travaux de la maison des autres. Jusqu'au jour où arrive... Alors, il y a le vent, il y a la tempête, il y a l'orage destructeur, et où effectivement, il est dans sa maison, loin d'être protégé, tandis que les autres sont à l'abri dans leur maison respective, qu'il a lui-même contribué à façonner, à consolider et à construire, et au détriment de sa propre maison. C'est cela.
C'est ça.
Alors, Farah Dwibi, je reviens à ce que j'ai énoncé précédemment. Dans l'introduction, vous dites qu'il faut établir une grande différence entre ce qu'est le... Alors, je vois Raphaël, ça va l'intéresser aussi, parce que je pense que ça l'intéresse à la fois sur le plan spirituel, mais peut-être aussi professionnel. le don de soi et le sacrifice de soi.
Le don de soi, c'est quand l'on donne quelque chose qui ne nous fait pas du mal. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller en soustraction de soi-même. Le sacrifice, c'est quand on va donner quelque chose qui va nous faire du mal. Par exemple, je peux vous donner des objets que j'ai en trop, je peux vous donner un peu de temps que j'ai de libre. Il n'y a pas de souci, ça s'appellera du don. Par contre, si je vais vous donner du temps que je n'ai pas déjà pour moi, dont j'ai besoin, ou si je vais vous donner des choses dont j'ai besoin pour manger, pour vivre, ça va être du sacrifice. La différence est énorme. Mais on ne fait pas forcément la différence dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on est dans une société où parfois un peu la religion nous dit que le sacrifice, c'est bien, et que c'est bien de souffrir. Mais en fait, pour trouver mes mots... On ne fait pas la différence entre les deux. Je pense que même les adultes ont du mal à faire la différence entre les deux. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à la faire. Mais une fois que vous l'avez faite, vous savez qu'on doit trouver un juste milieu afin d'être bien avec nous-mêmes. Et le juste milieu, il est pour tout le monde différent. Pour chacun, ce sera différent. Quand je vais donner, par exemple, de moi-même, avant de penser aux autres, je vais aider les autres, je vais aider les autres. Et moi, je ne fais pas faire les choses pour moi. Au bout d'un moment, je n'existerai plus, parce que j'aurais tellement donné de moi-même que je ne serai plus là. Et donc, je ne pourrai plus aider les autres. C'est le cercle tortueux que j'identifie. Par contre, dans le cercle vertueux, c'est difficile de déjà penser à soi-même dans cette société avant de penser aux autres. On a l'impression d'être égoïste, c'est ce que je veux dire. Mais en même temps, si on pense déjà à nous-mêmes et qu'ensuite on pense aux autres, on sera en capacité de mieux les aider et de les aider encore plus. Donc finalement, c'est un schéma vertueux qui nous permet d'être encore plus généreux, tout en prenant soin de nous. Et ce compte est justement là pour ça. Il est pour nous permettre d'identifier le don, le sacrifice, quelle est la différence, faire la part des choses afin de savoir se protéger pour être encore plus généreux sans se sacrifier. En ce sens-là, je ne suis pas non plus contre le sacrifice. Le sacrifice est quelque chose de très noble. Mais il faut savoir que c'est un sacrifice et il faut être d'accord sur ses conséquences. Ce n'est pas le cas dans la vie de tous les jours pour la plupart des gens.
Alors en fait, dans la vie de tous les jours, si je vous ai bien lu, Farhad Ouibi, soyons vigilants, mais surtout à l'égard des personnes intéressées, entre autres.
Pas forcément.
Pas forcément.
C'est pas forcément vis-à-vis des autres que j'écris ce livre, mais pour soi-même, pour chacun. On peut aider les autres, même des personnes qui ne sauront pas remercier en retour, ce n'est pas gênant. Le principal, c'est déjà de penser à soi, comment on peut rayonner correctement, afin de pouvoir rester soi-même, retrouver son chemin de vie dans le sens... Lever les voiles qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous embourbent dans une situation où on va mettre notre vie en pause pour aider les autres inconsidérément et de façon sereine, de façon éthique, de façon vraie, pure. Je ne sais pas comment l'expliquer.
Alors je vais vous demander une petite explication lexicale. Vous dites qu'il faut que nous retrouvions notre souveraineté spirituelle.
Oui.
Et je vous saurais gré d'expliquer ce
oui.
que
Alors,
vous entendez derrière cette expression impressionnante, souveraineté spirituelle.
J'ai retrouvé, en ce qui me concerne, assez de souveraineté spirituelle pour arriver à suivre mon chemin de vie, qui est justement dans ce premier livre de contes, premier de la collection, et qui va être toute une collection qui va permettre, je le souhaite, à beaucoup de gens de pouvoir lever des voiles et retrouver eux-mêmes leur souveraineté. C'est-à-dire que moi, pendant une vingtaine d'années, avant maintenant, j'y étais perdue, je n'avais absolument aucune souveraineté spirituelle. C'est-à-dire que j'allais là où la nécessité financière m'amenait, il fallait payer le loyer, il fallait payer la nourriture, je devais faire en sorte que les gens m'aiment, que la société fasse que je ne les dérange pas trop. Voilà, j'avais plein de schémas tortueux qui faisaient que je n'étais jamais moi-même. Donc je ne faisais jamais ce qu'il fallait que je fasse, ni n'empruntais mon chemin de vie. Et il s'avère qu'en levant les premiers voiles qui m'empêtraient dans ce circuit, en levant le premier, je me suis rendu compte que j'en avais plein, mais énormément. Et plus je les enlevais, plus je réalisais quel était mon chemin, plus mon chemin était clair pour moi. Donc en fait, ce sont des voiles opaques que j'ai simplement levées. Celui-ci, c'en est un, c'était pas le principal, hein, bien sûr, mais c'est un des voiles qui me permet d'être moi-même. Alors, pour être plus précise, ce livre-ci était censé être le deuxième qui sortirait. Le premier qui m'identifie vraiment et qui permet vraiment d'identifier la collection expliquer un petit peu ce qu'est le, comment on peut se désosser de ce formatage tortueux qu'est la société pour être vraiment nous-mêmes. Ce sera le deuxième tome qui sortira. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup trop de personnes qui étaient trop gentilles et qui en souffraient. Et j'ai préféré faire celui-ci en premier pour déjà aider ceux qui en avaient le plus besoin. Bon, le deuxième arrivera de toute façon, donc c'est juste une priorité que j'ai mis là-dessus.
Un conte illustré, donc, qui à destination des animateurs, des enseignants, des psychologues. Alors, vous utilisez, ça m'a fait un peu sourire, les parents éclairés. J'espère qu'il y en a beaucoup, mais j'ai des doutes parfois.
Si, il y en a. De ce que j'ai pu voir, le livre effectivement est très apprécié des personnes qui encadrent les enfants, comme les enseignants ou les animateurs, mais il est aussi très apprécié des adultes à partir de 30-40 ans jusqu'à même très âgés, parce que finalement c'est un travers que l'on a et qu'on s'identifie très vite à ce travers. Plus on vit, plus on a l'expérience du don et du sacrifice, et plus on se rend compte de ce qu'est le livre. Donc il y a aussi ça. Et les tout jeunes enfants adorent aussi.
Il faut bien dire qu'il n'y a aucune morale religieuse. Hein.
Non,
il n'y a aucune référence à la religion.
Apolitique à religieux, j'ai voulu faire en sorte qu'il soit accessible à tous, quels que soient les freins qu'on peut avoir dans la vie, quels que soient les formatages qu'on peut avoir dans la vie. Il peut être lu, regardé et apprécié par tous. C'était vraiment le but, qu'il soit accessible à tous.
Alors, accessible à tous, je confirme, parce qu'en plus, on peut le télécharger gratuitement à partir de votre site.
Oui, je voulais qu'il soit accessible à tous, quels que soient les moyens. Donc si on n'a pas les moyens pour acheter le livre, on peut aller sur le site, on peut le lire en intégralité sur Internet, on peut aussi le télécharger en PDF, on peut l'imprimer, le partager, c'est gratuit. Je l'ai mis sous licence Creative Commons exprès pour qu'il soit accessible à tous.
Un petit mot concernant l'organisation, donc sur la page de gauche, le texte et à droite, l'illustration, faite par vos soins.
Oui.
Remarquable.
Merci beaucoup.
Trois textes, mais qui disent la même chose, mais avec des narrations différentes, puisque il y a prose, il y a versification.
Oui, en fait.
Alexandra, bravo pour la contrainte.
Merci. Je voulais vraiment qu'il soit accessible.
La rédaction, notamment de chaque page en alexandrin, c'est une contrainte d'écriture forte.
En fait, c'est la version que j'ai faite en premier, de façon tout à fait intuitive, parce que j'ai commencé à faire les premières versions, le vers s'est tout de suite imposé. Il s'est invité. Et finalement, c'est très facile de faire de la versification, enfin pour moi. Et en fait, quand j'ai fini la première version, je l'ai lu à ma mère, qui, toute fière, en me disant « C'est super, il va plaire aux enfants. Je vais faire un conte extraordinaire. » Et ma mère m'a regardée en souriant en me disant « Mais ton conte, les enfants ne le liront pas, il est trop complexe. » Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la version pour les un peu plus petits, qui était encore trop complexe, puis la version en prose. Et que ma mère m'a dit qu'il était encore trop complexe, et je confirme. Il y aura une quatrième version pour les autres livres, mais j'ai voulu faire en sorte qu'il soit accessible à tous les âges. C'est la raison pour laquelle il y a trois versions différentes. On peut lire avec un bagage de vocabulaire différent pour les versions, indifféremment que ce soit en prose au présent, ou bien en alexandrin au passé simple, ou en hexasyllabe.
Et remarquable aussi, pour les plus jeunes, à la fin, un lexique illustré, hein, qui revient sur les termes un peu difficiles. C'est remarquable d'intelligence, de don de compréhension à l'autre. C'est du vrai partage. C'est de la gentillesse au sens étymologique du terme.
C'est-à-dire
être de noble origine.
D'accord. C'est possible. Je voulais vraiment qu'il soit accessible à tous, et du coup ça transparaît vraiment dans le livre, du fait qu'il y a les versions différentes, qu'il y a un lexique illustré. Et pour les personnes qui sont pas forcément très littéraires, plutôt opaques à la lecture, on peut prendre le livre à des endroits différents, on va découvrir des choses à chaque fois différentes. Si on veut, on a des planches de morale, on peut juste lire les citations si on aime les citations, on peut aller dans les explications à la toute fin où j'explique la symbolique, on peut aller juste au début, ne lire que l'avant-propos qui résume tout le conte en une page. Et on peut vraiment on peut y aller par diff- différents moments, puis on peut le laisser dans sa bibliothèque un an ou deux, le reprendre après, le relire différemment. Le but, c'est vraiment que ce soit un outil de travail, qu'on puisse le prendre, le travailler par-ci, par-là, le présenter, le montrer, le relire, et puis qu'il puisse être utile.
Un véritable, c'est vrai, un véritable outil de travail, également un beau livre, intelligent, didactique, généreux.
Merci.
Et qui permet, alors, pour nous adultes, peut-être de réviser ce que sont la générosité, la charité, la compassion, apprendre aussi la tempérance et la modération.
Tout à fait.
Voilà. Donc c'est un conte du royaume enchanté de sagesse, le bâtisseur ou le bâtisseur qui ne savait pas dire non, donc de Farah Dweeby, 77 illustrations et 282 définitions. Voilà. Merci. Et je rappelle le titre du roman de Sylvie Vosgic, Les dernières volontés de F.R. MacPherson chez Arléa. Et n'oublions pas le récit témoignage poignant de l'invité d'honneur du Festival du Livre de Blanzy, L'Obstiné, de Raphaël Nedilko chez Studio Fact Édition. Merci à vous, cher public, d'avoir été aussi curieux et attentif.